Salut, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Cette semaine, on vous parle du sommet des jeunes diplomates noirs de Toronto avec Marine Otogali.
On a des participants qui viennent du Canada, Ottawa, Montréal, même du Saskatchewan, par exemple. Puis on a des participants aussi qui viennent d'autres pays comme en Afrique, de Ghana aussi, Jamaïque, Colombie. La Colombie fait que c'est vraiment international.
Marie laisse frappe un coup sûr avec les fondateurs de T-Bats, une compagnie qui fabrique des bâtons de baseball en 8 minutes, top chrono.
Ce qui fait en sorte qu'un bâton, on les voit dans les magasins à 300 $, on dit « Wow, c'est quoi? Pourquoi c'est si cher que ça? » C'est vraiment la qualité du bois, comment droit le grain peut être.
Quelle est la recette pour bien vivre son intégration dans un nouveau pays? Une jeune Marocaine arrivée il y a à peine 45 jours au Canada livre sa recette au micro de Iman El Hadji.
Tant que vous avez décidé d'émigrer et de quitter votre pays et venir là, bien sûr, vous avez des raisons qui vaut le coup. Donc, il faut rester optimiste, rester focalisé sur vos objectifs.
Et le festival Innu de Nicamou, près de Sept-Îles, se forge une solide réputation en Haute-Côte-Nord, au Québec. Maxime Jaudoin aura les détails.
C'est vraiment devenu un lieu de rassemblement, d'harmonie entre les peuples. Il y a toujours une très, très, très grande place pour les artistes autochtones qui continuent à chanter dans leur langue.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter. @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Le sommet des diplomates noirs vient de se conclure à Toronto. La rencontre de 4 jours organisée par Developing Young Leaders of Tomorrow Today permettait à des stagiaires de l'Académie des diplomates noirs de tester leurs connaissances et compétences auprès de diplomates internationaux chevronnés. Question de se familiariser avec leur futur métier, Marine Otogali nous a préparé ce qui suit.
Interprétée par The African Drummer Collective, ces percussions ont introduit la première des 4 journées du Sommet mondial de la diplomatie noire à Toronto. 4 jours pendant lesquels les étudiants de l'Académie des diplomates noirs ont pu échanger aux côtés d'intervenants et décideurs internationaux tels que Epsie Campbell Barr, ancienne vice-présidente du Costa Rica et présidente du Forum permanent sur les peuples afrodescendants. La fondatrice et responsable du développement de DILOT, Developing Young Leader of Tomorrow Today, Candice Cochapao, tout juste revenue des Nations Unies à New York, a pu se présenter aux étudiants. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être devant vous aujourd'hui, après plusieurs années de mise en place, c'est sûr. Je suis excitée à l'idée de partager un peu cette aventure avec vous, en résumant très rapidement. J'ai commencé à mentorer des jeunes en 2016 avec des jeunes filles. J'ai commencé le mentorat pour les aider à améliorer leur estime de soi et leur prise de parole publique. J'ai commencé à créer un programme virtuel de coaching pour Spelling Bee. Ceux qui sont familiers des Caraïbes ou de l'Afrique continentale devraient connaître. C'est une compétition autour du lexique et du langage et de l'épellation en particulier. J'ai commencé par ce groupe, un petit groupe, pendant 2 ans. Et puis j'ai réalisé qu'en fait ces personnes n'avaient pas uniquement besoin d'être soutenues, mais avaient besoin d'une plateforme pour montrer ce qu'elles étaient capables de faire. L'idée de l'Académie des diplomates noirs en tant que colonne vertébrale de l'organisation m'est venue lors d'un forum international de jeunes diplomates en Lituanie. À travers les 16 jeunes, chacun des jeunes noirs présents avait eu la même expérience. D'où qu'ils viennent dans le monde, ils avaient vécu une barrière majeure dans le financement pour pouvoir venir. Donc la participation était limitée car ils ne pouvaient pas se permettre d'y aller. Et deuxièmement, ces opportunités de réseautage, ces capacités qui sont si faciles ici, n'existent pas pour les jeunes dans ces espaces. Et quand je suis revenue au Canada, je me suis dit « c'est là que je veux être, c'est ce que je veux faire. Ce sera ma contribution pour être sûre que l'excellence noire soit amplifiée au niveau de sa jeunesse. » Lorsqu'elle finissait son premier cycle en économie à l'Université Concordia à Montréal en pleine pandémie, Danisha Desius a participé au programme et c'était la première année, en 2021. Aujourd'hui, elle est gérante du programme de l'Académie noire des diplomates, un des différents programmes de DILOT, Developing Young Leaders of Tomorrow Today.
Oui, donc DILOT, c'est l'organisation, il y a plusieurs programmes. Il y a sept programmes ici. Il y a un autre aussi pour les jeunes femmes entre l'âge de 8 ans à 14 ans. Puis il y a un autre programme pour la sécurité cyber aussi. Fait que il y a trois programmes. En fait, le programme d'Alot est créé pour aider les jeunes noirs partout au Canada entre l'âge de 18 ans à 35 ans et aussi pour les jeunes femmes.
Et ces derniers jours, du 27 au 30 juillet, l'attention se tourne autour de ces candidats de l'Académie des diplomates noirs, rassemblés à Toronto pour présenter leurs travaux aux côtés des intervenants de haute volée qui ont accepté de participer.
En fait, on a une conférence de 4 jours. C'est pour notre programme encore, pour juste faire emphase sur les recherches que nos participants ont fait pendant les dernières 6 mois. Puis aussi, c'est pour avancer les objectifs de développement durable de l'ONU, quasiment numéro 8, pour avoir les plus jeunes d'avoir des emplois, des opportunités et tout ça. Fait que pendant ces 4 jours, on va avoir d'autres conversations entre la diplomatie, les femmes, les jeunes noirs partout au monde. Fait que il y a plusieurs activités qui marchent dans cette conférence.
Le programme de l'Académie noire des diplomates est une sorte de stage de 10 mois. Il y a entre 25 et 30 élèves acceptés chaque année. Et ils viennent tous d'horizons académiques différents.
Donc, dès qu'ils sont sélectionnés, ils font des rencontres chaque semaine. Ça fait 4 mois qu'on le fait, entre mars jusqu'à juin, juillet. Puis c'est chaque vendredi, samedi après-midi, on a des c'est comme des cours. Fait qu'on a des présentateurs qui viennent du gouvernement ou de l'ONU ou des secteurs privés, puis faire des discussions de leur carrière. Et ensuite, les participants peuvent demander des questions, comment on a eu cette carrière et juste des inspirations aussi. Et ensuite, avec ces 4 mois des cours, ils ont fait des recherches sur les divers topics, fait que les sujets comme, par exemple, la technologie et comment on peut avancer les pays en Afrique et les jeunes en Afrique pour avoir plus accès à cette technologie, ou par exemple de créer plus de participation avec les jeunes dans l'ONU. Fait que c'est justement ça. Puis à la conférence aujourd'hui et pour les prochains 3 jours, ils vont présenter leurs recherches. Mais le programme, c'est sûrement en ligne. Fait que on a des participants qui viennent du Canada, Ottawa, Montréal, même du Saskatchewan par exemple. Puis on a des participants aussi qui viennent d'autres pays comme en Afrique, de Ghana aussi, Jamaïque, la Colombie. Fait que c'est vraiment international. La seule chose qui est en personne, c'est cette conférence ici. Mais à la même temps, on peut avoir des participants en ligne. Fait que c'est toujours engagé avec les autres qui ne sont pas ici au Canada. À la fin, il va y avoir des mentorats dans le gouvernement ou dans l'ONU, puis aussi c'est gratuit. Fait qu'on sait que déjà c'est difficile de chercher un emploi, mais pour chercher un programme pour créer d'autres opportunités, ça doit être gratuit pour eux aussi, parce que justement ils n'ont pas d'emploi par exemple. Fait que c'est juste pour ça.
Ces 4 jours qui se déroulent au centre-ville de Toronto avaient été introduits par l'interprétation de l'hymne national noir.
Let us march on till victory is won. Thank you all so much.
Bonjour, c'est Marine. À Toronto, en Ontario, vous écoutez Point de vue, l'info locale partout au pays.
Deux Franco-Ontariens passionnés de baseball lancent en 2015 une compagnie de fabrication de bâtons de baseball. T-Bats, fondée par Éric Brisson et Stéphane Morissette, en fabrique aujourd'hui en moins de 8 minutes. Ils sont faits de plusieurs essences de bois, notamment d'érable. T-Bats espère frapper un coup sûr dans les ligues majeures de baseball d'ici peu. T-Bats qui en fabrique notamment pour l'équipe des Titans d'Ottawa, de la capitale nationale. Marie Hillès est allée à leur rencontre.
Les Franco-Ontariens Éric Brisson et Stéphane Morissette sont les propriétaires de T-Bats, une compagnie qui se spécialise dans la création de bâtons de baseball. Un projet qui a débuté en 2015. Éric nous raconte l'histoire.
C'est moi qui ai parti ça il y a peut-être environ 8 ans. Puis j'étais tard le soir, puis je regardais des vidéos YouTube. Finalement, je me suis retrouvé sur un site vidéo. C'était un jeune garçon, puis il nous montrait comment il faisait son bâton de baseball.
Oh, wow.
Moi, j'ai regardé à ça, puis je me suis dit, tu sais quoi, ça serait intéressant d'essayer peut-être faire des bâtons, parce que J'étais un passionné de baseball. J'ai joué au baseball toute ma vie. Puis je joue encore au baseball quand que j'ai vu ces vidéos-là. Donc, je me suis dit, j'ai fait un peu de recherche. J'ai trouvé une latte. J'ai décidé de prendre un cours pour comment tourner les bâtons. Et puis finalement, c'est drôle, je me suis retrouvé dans mon garage une couple de mois plus tard en train de tourner des bâtons. J'en porte mon premier bâton à ma game de balle. Les gars, ils regardent ça. Ils disent « Hey, j'en veux un. » So, ça partit un petit peu de même, là, bouche à oreille. Puis là, ben, je jouais avec Stéphane. Puis Stéphane a décidé d'embarquer là-dessus. Et puis, je sais pas si Stéphane, tu veux expliquer un peu comment tu as rentré là-dedans avec moi. Là.
Ben, c'était après un match de balle arrosé avec 2-3 consommations de jus de pomme. Comme la majorité des très bonnes idées, c'est pendant une soirée arrosée. Et puis, on est en train de regarder les battes. Puis, je me dis, hey, comme pourquoi qu'on s'en va pas? On n'amène pas ça plus haut. Il me semble que ce serait le fun de voir Vladdy avec un bâton comme ça. Puis à ce moment-là, Eric les faisait sur une latte. Ça prenait 1h20 pour un bâton. C'était vraiment un hobby. Puis en même temps, ça lui donnait un break de ses enfants. Et puis, donc là, on s'est dit, hey, ça serait le fun d'aller plus loin. Mais là, tu sais, c'était une soirée, il était tard.
Ouais.
2-3 jours après, on se rappelle. On dit, hey, tu te rappelles-tu d'avoir parlé de ça? Oui. On pense que c'est une bonne idée. Puis on s'est dit, hey, ben, c'est now or never.
Depuis, Eric et Stéphane se sont procurés d'une machine qui, au lieu de créer des bâtons en 1h20, les fait en 8 minutes seulement. Mais comment définit-on un bon bâton de baseball?
Ça, c'est une question à 1 000 $. et je dirais peut-être même 1 million, parce qu'à chacun des joueurs que vous demandez cette question-là, ça va être une réponse différente. C'est un joueur de baseball est excessivement superstitieux. On a fait l'expérience, d'ailleurs, on a donné 2 bâtons complètement identiques au centième d'once, différentes couleurs. C'était drôle, les joueurs, ils préféraient un ou l'autre. Puis quand finalement, on leur a dit c'est le même bâton, là, ils disaient « Wow! » Donc, c'est vraiment un choix personnel. Tant ou son temps que ça va bien avec ce bâton-là, c'est le meilleur bâton du monde. Mais si ça ne fonctionne pas, on essaie de changer. Comme Vlad a fait l'année passée, il a changé son bâton 7-8 fois. Pour répondre en bonne réponse, d'ailleurs, c'est vraiment la qualité du bois. Donc, ce qui fait en sorte qu'un bâton, on les voit dans les magasins à 300 $, puis on dit « Wow, c'est quoi? Pourquoi c'est si cher que ça? » C'est vraiment la qualité du bois. Et en termes de qualité, c'est vraiment comment droit le grain peut être. Donc, quand on utilise les érables, le grain est très, très, très dense, très, très collé. Et le plus droit veut dire qu'il va être le plus solide. Donc, les compagnies de bats de baseball, ces bâtons-là sont très rares. Donc, c'est pour ça qu'on... sont beaucoup plus chers. Ouais. Et ça, c'est vraiment, là, en termes de qualité, c'est le bois le plus parfait qu'on peut avoir, d'ailleurs.
Moi, ce que je me demandais aussi, mais je reviens un peu au nom T-Bat, d'où ça vient, ce nom?
Ouais, ça c'est moi. Quand j'ai commencé à compagnie, j'ai commencé T, c'est pour mon premier-né, Théodore, puis Bat.
Ça arrive de faire des mauvais bâtons et qu'après, il faut recommencer ou non?
Ça arrive très souvent, oui. Surtout au début, avec le trial and error, avec les différents types de machines qu'on avait, il y a beaucoup, beaucoup. Puis dans le fond, ce qui arrive avec le bâton, c'est que de l'extérieur, il peut paraître parfait. Puis là, quand on commence à le tourner, il peut avoir un nœud à l'intérieur, il peut avoir des imperfections. On les regarde vraiment à l'œil et c'est complètement fait avec nos mains à la fin. Donc, s'il y a jamais une imperfection, il s'en va dans la pile, pas garbage, mais dans la pile selon le vent pas.
Aujourd'hui, T-Bats collabore avec les Titans d'Ottawa. Ils ont réussi à se positionner dans le monde du baseball local de la région. Projet pour le futur, se rendre aux ligues majeures.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Les immigrants francophones du Manitoba ne tiennent plus en place. Près de 1000 d'entre eux ont quitté ces 5 dernières années la province au profit d'autres destinations canadiennes. Cet exode francophone préoccupe les autorités provinciales, bien sûr, et certainement les minorités francophones de la province déjà trop peu nombreuses. Le Manitoba, qui ne compte que 47 000 personnes dont la langue maternelle est le français, estime le ministère de l'Immigration de la province. Asna Eloudi a quant à elle fait le chemin inverse. Cette immigrante marocaine, arrivée au Manitoba il y a à peine 60 jours, a fait le pari de réussir sa transition transatlantique de Saint-Boniface au Manitoba. Notre journaliste Iman El-Hadji lui a tendu son micro.
Le projet d'immigration, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Prendre la décision d'émigrer, de quitter ton pays, tes amis, ta famille, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc, vous faites des sacrifices, vous mettez des sacrifices à côté, mais en contrepartie, vous cherchez des récompenses plutôt. Donc, ce qu'on cherche, c'est une qualité de vie. On cherche un soutien moral, psychique, en termes que, comme j'ai dit, job, surtout quand francophone au sein d'une province qui est anglophone. Donc, je cherche ce soutien et l'accompagnement pour avoir un job qui convient à mes compétences, bien sûr, et mon parcours académique. Aussi, on cherche aussi un accompagnement en termes d'information, comment rendre notre famille épanouie, heureuse, dans un environnement qui est tellement et radicalement différent de la mienne.
Pouvez-vous nous faire part de votre expérience personnelle en tant qu'immigrante francophone au Manitoba et des facteurs qui ont influencé votre décision de vous installer ici?
Ma famille a été nominée par la province du Manitoba et on est chanceux. Pour moi, le Manitoba, ça me convient et me convient mon caractère, ma personnalité. Pour choisir une province, il faut avoir plusieurs critères, à savoir la diversité de jobs, aussi le marché d'emploi, aussi les conditions de vie. Est-ce qu'il est adéquat avec une famille avec des enfants ou non? Ben pour moi, le Manitoba, il est adéquat pour une famille plus que des célibataires. Ça ne va pas dire que les célibataires ils ne peuvent pas vivre ici, mais elle est plus convenable pour des familles. Il a ce style qui est assez doux, assez simple, donc il convient aux familles avec des enfants. Aussi, ce qui peut influencer la décision, c'est la question du climat. Mais je me dis que on est arrivé au mois de juin, jusqu'à maintenant on est épanoui. On attend l'hiver, on va voir.
Maintenant que vous êtes bien installé au Canada, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui auraient l'intention d'immigrer au Canada?
Comme nouvelle arrivante, bien sûr, je suis pas apte pour donner des conseils généraux, mais je peux dire qu'il faut s'armer de patience à tous les immigrants. Il faut être patient, patient, patient. Il faut bien développer la langue anglaise aussi. Il faut amener avec eux un fonds le maximum possible. Donc, tant que vous avez un fonds d'argent qui est assez bon, vous avez le temps pour s'adapter et s'intégrer facilement et aisément. Donc aussi, j'aimerais bien dire pour tous les immigrants de rester toujours optimistes. Parce que tant que vous avez décidé d'émigrer et de quitter votre pays et venir là, bien sûr, vous avez des raisons qui vaut le coup. Donc, il faut rester optimiste, rester focalisé sur vos objectifs, amener de l'argent, amener votre langue avec vous.
Alors, nous vous remercions énormément du temps précieux que vous nous avez accordé aujourd'hui, Asna.
Avec plaisir. Merci à vous aussi.
Cet entretien a été rendu possible grâce au programme IGN.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La 39e édition du festival Innu Nikamu a pris son envol le 1er août dernier au Québec. L'événement qui se tient à Malioténam, près de Sept-Îles en Haute-Côte-Nord, et jusqu'au 6 août prochain, plonge au cœur de la culture et de l'univers autochtone québécois. Le festival, qui semble se tailler une réputation enviable auprès des agents et promoteurs culturels qui viennent y débusquer de nouveaux talents, le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants et le regroupement des événements majeurs chanteurs internationaux ont d'ailleurs annoncé leur visite cette année, le festival Innu Nikamu, qui présente cette année encore quelques grandes pointures de la musique autochtone et québécoise, comme Florent Volant, Natacha Canapé-Fontaine, Roxane Bruno, Richard Seguin et Émile Bilodeau, Maxime Jaudoin n'a pas raté l'occasion d'en parler avec Normand Junior Tchirnich-Pilot, le coordonnateur du festival Innu Nikamu.
Le but au départ, c'était de promouvoir la langue, donner une plateforme, une scène pour les artistes autochtones qui commençaient à chanter dans leur langue. Avec le temps, c'est devenu, il y a quelques années, je dirais, c'est devenu surtout un moyen de se rapprocher, mettons, de nos voisins, les Québécois. Puis on s'est rendu compte, en faisant des actions dans ce sens-là, que le public, de plus en plus, était composé de Québécois ou de touristes de l'extérieur du pays. Fait que c'est vraiment devenu un lieu de rassemblement, d'harmonie entre les peuples. Puis il y a toujours une très, très, très grande place pour les artistes autochtones qui continuent à chanter dans leur langue. Mais on donne aussi la place là à des artistes québécois pour attirer des gens. Puis nous, quand le site est plein, ben ça permet aussi à nos artistes, t'sais, de performer devant, de se faire connaître, puis de performer devant plus de monde, puis en gros, ouais, c'est ça.
Oui, et en plus du public, là, on peut mentionner qu'il y a des producteurs et même des agents qui font la route pour s'imprégner de la culture. Et parmi la visite attendue du festival, on parle du Refrain, qui est le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, et ainsi que le RIMI, donc le regroupement des événements majeurs internationaux. Donc oui, le festival, on peut dire qu'il prend de l'ampleur.
Oui, vraiment beaucoup, surtout cette année. Puis c'est une première là à Innu Nikamu, puis peut-être même au Québec. On a un volet pro là 100% autochtone, donc les gens de la SODEC, de Musique Action, de plein d'organismes, de la Fondation Socan, de Socan. On va avoir des représentants aussi de festivals du Québec qui viennent entendre les artistes autochtones dans le cadre de vitrines musicales qui vont avoir lieu le 1er et le 2 août. Fait que pour nous, ça va être une belle occasion de vendre les artistes autochtones et possiblement se faire booker dans des festivals au Québec l'an prochain ou dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que c'est vraiment une première. Puis le but de tout ça aussi, c'est de donner des outils aux artistes pour la production d'albums, la diffusion de leur musique. Et ça permet aussi aux gros joueurs là, de l'industrie d'apprendre à nous connaître puis de voir c'est quoi la difficulté des artistes autochtones. Comment qu'ils vivent leur musique, puis à quel point ils bûchent fort pour être capables de sortir un album. Fait que le but, ça va être vraiment de leur donner des outils pour diffuser leur musique, produire des albums, et que ça va être une belle occasion pour du partage. Moi, je vois dans un festival au Québec, puis que je vois qu'il y a un autochtone qui est programmé. On ressent, en tant qu'autochtone, on ressent beaucoup de fierté, qu'on soit reconnu comme ça, puis en parlant de fierté, une des raisons pourquoi qu'on invite, mettons, les plus gros noms artistiques là, au Québec, pourquoi on invite les Gypsy King à Manutenam, c'est la fierté. C'est parce que c'est une chose, exemple, d'aller voir Roxane Bruno, Émile Bilodeau, Soulja, Loud, mettons, au Centre Bell ou au Centre Vidéotron. Mais c'est une toute autre expérience quand c'est eux qui viennent à la maison performer. Il y a comme un immense sentiment de fierté qui vient par rapport à ça, d'être capable de faire venir ici, à Manutenam. Quand Simple Plan sont venus en 2016, moi, c'est sûr que ça m'avait fait. Là, je me dis, OK, là, on nous entend. Là, on nous voit. Là, on nous écoute. Fait que c'est ça que ça amène comme sentiment d'inviter des noms d'envergure comme ça. Puis on a aussi des légendes autochtones, comme Florent Volant,
oui.
Claude McKenzie, William Taguna, qui est un chanteur inuit des années 70-80, qui est vraiment une figure, une légende. Puis il va y avoir de tout, là, des artistes émergents que ça fait un an, quelques années, quelques mois qui ont commencé à faire de la musique. On a de la place aussi pour les enfants qui veulent démontrer leur talent sur la grande scène. que ce soit de la magie, que ce soit de la danse, du chant, jouer un instrument, fait qu'on on y va vraiment dans toutes les directions, toutes les générations.
Et justement, au niveau de la programmation, là, vous l'avez mentionné un petit peu, là, Florent Bollard, Richard Séguin, Natacha Canapé-Fontaine, Matène, Claude McKenzie, aussi Roxane Bruno et Émile Bilodeau, donc un peu plus artistes québécois de ce côté-là. Mais les artistes québécois, justement, quelles sont leurs perceptions à eux du fait de venir performer sur votre territoire comme tel?
Ouais, ben leur perception, je pense qu'ils vont être surpris de comment qu'ils vont être accueillis, autant dans le backstage, autant par le public. C'est pas arrivé souvent que ces artistes-là jouent devant un public dans une communauté autochtone. On n'est pas au Centre Bell, on n'est pas au Centre Vidéotron, on n'est pas en ville. On est dans un village, une communauté autochtone en plein cœur du village. Ça fait que ça va être une belle expérience pour eux, je pense, puis ils vont être surpris là, de comment qu'on va les accueillir. Ouais, il y a plusieurs sortes de... Je dirais de visiteurs. Il y a les gens qui viennent au festival, qui partent de Montréal, d'Ottawa, de l'Estrie, du Saguenay, de Québec, de partout. Il y a aussi des gens qui y allaient aux îles Mingan, puis en fouillant un peu, ils ont vu, il y a un festival, OK, on book des billets, on book un camping, on book... Fait qu'il y a vraiment de tout. Il y a des touristes aussi de l'Europe qui passent par là, puis... juste un exemple, rapidement comme ça, on a une bénévole l'an dernier qui était là pour... Qui est débarqué de la France pour venir voir le festival. Fait qu'elle a travaillé avec nous. Cette année, elle revient. T'sais, fait que ça crée vraiment des beaux liens. C'est un festival, c'est plus que de la musique. C'est vraiment, c'est une expérience. C'est à vivre, à ressentir. C'est vraiment un événement d'envergure où il y a des belles amitiés qui se créent long terme. Puis il y a de la belle magie. Il y a beaucoup d'enfants qui courent partout, des aînés. C'est un festival sans alcool. Fait que c'est vraiment accueillant, c'est invitant, puis on invite évidemment tous les gens de la Côte-Nord, tu sais, que autochtones et non autochtones, c'est nos voisins, les Québécois, là, fait que tout le monde est la bienvenue au festival.
Monsieur Normand Junior Tierney-Chepilot, merci beaucoup, et l'invitation est lancée à la population du 1er au 6 août prochain.
Merci pour votre appel.
C'était Maxime Jaudoin dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
Et bien voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. Merci à nos collaborateurs tristes cette semaine que sont Marie Hillès, Marie Notogali, Iman Elagi et Maxime Jaudoin, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne ici à l'animation et à la réalisation. Merci de nous avoir tenu compagnie. À la semaine prochaine.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca et suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI.
@CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.